À rencontre spirituelle aujourd'hui, il m'a semblé à propos à la veille du carême, puisque c'est ce qu'on appelle le mardi gras, jour où prétendument on peut s'amuser et faire n'importe quoi, eh bien je pense que c'est préférable à rencontre spirituelle de s'intéresser au Christ lui-même, puisque le carême, qui commence dans quelques heures, est aussi important que le ramadan dont on parle beaucoup. Le carême, on n'en parle plus, et pourtant, pour nous, chrétiens ici, c'est le moment de la préparation au grand mystère de la rédemption, c'est-à-dire ce mystère de la grande déclaration d'amour de Dieu à notre égard, cette déclaration qui se fait sur la croix en particulier, dans la résurrection du corps de Jésus, dont, à mon avis, nous avons, semble-t-il, j'insiste, nous avons la trace sur un objet qui, à mon avis, est le plus mystérieux de toute la terre, bien plus extraordinaire encore que les pyramides d'Égypte qui n'ont rien vraiment à nous apprendre en soi, ou que les pistes de Nazca au Pérou, ou les grands monuments que l'on découvre dans le sol de plus en plus, particulièrement en Chine, comme ces armées de statues de soldats. Toutes ces choses merveilleuses, fascinantes, intéressantes que l'on découvre ou que dont on a parlé depuis des siècles, eh bien c'est le Saint-Suaire de Turin qui me semble être l'objet le plus extraordinaire. Et pourquoi? Parce qu'il nous révèle en négatif la photo de quelqu'un qui, au dire même d'un croyant, d'agnostique, ne peut être que Jésus de Nazareth. La seule photo prise avant l'invention de la photo, invention de la photo qui date d'environ, chacun le sait, environ 1835. Hein. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. On a souvent parlé du Saint-Suaire de Turin depuis ce 13 octobre 1988, quand, après une analyse de datation au carbone 14, trois importants laboratoires, soit ceux de Zurich, en Suisse évidemment, d'Oxford et de Tucson en Arizona, aux États-Unis, étaient arrivés à la conclusion que cet objet était un faux, puisque d'après la datation carbone 14, à 5% près de marge d'erreur, il datait de 1260 à 1390. Or, les analyses scientifiques de cet objet, toutes les analyses scientifiques qui ont été faites depuis, en particulier le début de ce siècle, après qu'on ait eu pris une photo du Saint-Suaire à Turin, le linceul du Christ, bien, les livres ont commencé à paraître. J'ai dans ma bibliothèque le fameux livre de Paul Vignon, paru en 1902. Déjà très, très, très bien fait sur le plan scientifique. Extrêmement intéressant. On voit que ces savants étaient loin d'être de tout petits savants, loin de là. Or, imaginez les dizaines, les centaines de livres qui sont parus depuis. Et depuis cette analyse au carbone 14... sont parus aux éditions de l'Œil deux ouvrages très importants, un de Arnaud Aaron Oupinski, La science à l'épreuve du linceul, la crise épistémologique, et comme sous-titre, La démonstration scientifique de l'authenticité. C'est un ouvrage extrêmement savant, d'environ 250 pages, que je ne recommande pas à tout le monde, si ce n'est, il faut avoir un esprit très scientifique pour lire ce livre de M. Oupinski, U-P-I-N-S-K-Y, La science à l'épreuve du linceul. Mais un autre que vous pouvez lire, tout le monde, à peu près personne n'aura de difficulté à lire ça, c'est Le linceul de Turin face au carbone 14, une analyse scientifique et critique de la datation par le carbone 14, par messieurs Claire et Tasso, paru encore aux éditions de l'Œil, et c'est tout petit. Oh, ça a 90 pages. Mais quelle étude intelligente, hein? Et on peut voir là-dedans qu'il y a des erreurs si grossières dans les analyses au carbone 14 qu'on ne peut pas prêter foi à ce genre de datation. On a daté des choses, c'est tellement insensé, il faut lire l'ouvrage, hein. Et de toute façon, je n'ai pas le temps de vous donner trop de détails, mais disons qu'il y a des, mettons un siège qui est daté d'à peu près 500 ans ou 1000 ans de plus que le temps où il a été fait, puisqu'on sait qu'il a été fait pour tel roi ou tel empereur. Il y a aussi le Suaire, une énigme à l'épreuve de la science chez Fayard, par deux Italiens, Orazio Petrosillo et Manuela Marinelli. C'est un ouvrage bien fait, intéressant, que j'ai lu au complet, c'est volumineux, mais ça se lit très très bien, et ça a plus de 400 pages. C'est très 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 convaincant. Et enfin, je vous signale des ouvrages comme Histoire ancienne du linceul de Turin jusqu'au XIIIe siècle par le fameux père Dubar, le dominicain, encore aux éditions de l'Œil, ou les ouvrages de Monseigneur Jean-Charles Thomas, c'est le Seigneur, et il est évêque de Versailles, et ses quantités d'autres livres, oh mon Dieu, mort et résurrection du Christ, d'après les évangiles et d'après le linceul de Turin, car c'est ça qu'on trouve dans le linceul. Hein. La mort du Christ, on la voit sous nos yeux. Ça, c'est écrit par un dominicain, le père Ferré, et publié chez Buchet-Châtel. Mais j'ai à peu près 55 volumes, je ne peux pas tout vous les dire. Je vous en signale enfin un dernier, La vérité sur le Suaire de Turin, paru avant les analyses au carbone 14 par Kenneth Stevenson et Gary Abermoss. Ça avait été publié à Montréal. J'ai acheté le lot qui restait de plus de 3500 volumes que j'ai distribués. Mais c'est encore en distribué par Fayard en France. On peut le trouver encore. Je vous laisse donc sur ces livres pour vous parler maintenant vraiment du linceul et du carbone 14. Le 13 octobre 1988, le cardinal Balestrero, que j'avais rencontré à Turin en 1978, à deux reprises durant l'été pour préparer le tournage d'un film d'une heure que j'ai réalisé, et que j'ai revu après pour l'interviewer, au moment de l'exposition du linceul qui avait attiré 3 millions de personnes de toutes les parties du monde à Turin, eh bien, il a fait officiellement connaître que, d'après les travaux de datation carbone 14 entrepris par les laboratoires que je vous ai mentionnés tout à l'heure, que le célèbre suaire ou linceul du Christ ne remontait pas au-delà du XIIIe ou XIVe siècle. Ce qui est absolument absurde, je tiens à le spécifier dès le début, et je vais vous le prouver. Ce grand linceul qui est fait de lin, c'est dans les évangiles, on dit, dans l'évangile de Marc comme dans d'autres évangiles, que le Christ a été enseveli dans un linceul que lui avait acheté Joseph d'Arimathie. On a ça dans trois des évangiles. Or, ce grand linceul qui représente cette empreinte faciale et dorsale, c'est-à-dire le devant du corps et l'arrière du corps d'un homme qui a été flagellé, oui, flagellé, d'environ une centaine de coups, semble-t-il, d'après les études les plus sérieuses, qui a été coiffé d'une espèce de calotte d'épines qu'on appelle la couronne d'épines, c'est-à-dire c'est une coiffure qui couvre tout, comme un chapeau, comme une calotte, qui couvre le crâne, et on voit le sang qui coule sur le front et à l'arrière aussi de la tête. Il porte cet homme sur le linceul de Turin. Il porte au poignet, au pied, puis au flanc droit, les plaies que l'on reconnaît comme étant les plaies de la passion de Jésus de Nazareth. Et on prétend que tout ça a été fabriqué. Ça n'aurait donc pas pu envelopper le corps du Christ. Cette nouvelle, je m'en souviens, a fait l'effet d'un coup de tonnerre, hein, parmi les partisans du linceul qui sont très, très, très nombreux et les quelques rares adversaires de son authenticité. Ça a déclenché des vagues de discussions, des polémiques, qui sont pas prêts de retomber entre certaines personnes, hein. Mais on connaît la méthode du carbone 14, qui a été inventée en 1947 par un Américain, M. Libby. Elle est largement utilisée, en particulier en archéologie. J'ose pas vous expliquer comment ça fonctionne, c'est un petit peu compliqué. Quoique, en résumé, on peut dire que l'isotope radioactif du carbone, produit par le bombardement des rayons cosmiques dans l'atmosphère, le carbone 14 est absorbé sous forme de gaz carbonique par tous les êtres vivants, les végétaux inclus. Et comme il est instable et radioactif, bien ce carbone 14 se désintègre suivant une progression ou un rythme, si vous voulez, qu'on connaît très bien. En résumé, un corps mort perd la moitié de sa radioactivité en près de 6000 ans. Pour être exact, 5760 ans. Il perd donc la moitié de sa radioactivité en 5760 ans. Alors, en partant de là, de la teneur actuelle en carbone 14 d'un échantillon organique qu'on examine, il est possible de connaître approximativement son âge. Mais il ne faut pas que l'objet ait été traité de toutes sortes de choses, comme le linceul qui a brûlé. Il a brûlé en 1532 à Chambéry, où il était conservé dans le sud de la France, en Savoie, au pied des Alpes. C'est dans la nuit du 3 au 4 décembre 1532 qu'un incendie a ravagé la sacristie puis le linceul de Turin, qui portait cette effigie remarquable et qui émerveillait tout le monde, et sauvé de justesse. Il va conserver de cette mésaventure des traces de brûlure, d'ailleurs, et quand vous regardez le linceul au complet, vous y voyez deux bandes de brûlures qui sont assez dérangeantes, mais il faut les oublier. Puis on voit aussi des cernes d'eau, car on l'a arrosé d'eau, et ça, avec les parties détruites par le feu, ont été rapiécées en 1534 par des clarisses. Et en 1578, bien à Turin, on a transféré le linceul, c'est le duc de Savoie qui l'a installé là. C'est pour ça qu'en 1978, on a organisé, à l'occasion du 4e centenaire du linceul à Turin, cette grande exposition. C'est en 1898 que les premières photographies ont été prises par Secundo Pia. Ce fut un extraordinaire phénomène. Hein? Et quelques années plus tard, il y a des historiens qui ont prétendu que c'était un faux parce que un évêque du nom de Pierre d'Arcis, en 1389, avait assuré que le linceul était un faux, mais c'est parce qu'il perdait des pèlerins qui se rendaient voir le linceul là où il était exposé à Liré, et il était fâché, puis il a imaginé des choses, et c'est évident quand on étudie l'histoire. Et de toute façon, cet objet est rarement exposé. Hein? Savez-vous combien de fois il a été exposé durant ce siècle? Eh bien, quatre fois seulement, 1931, 1933, à l'occasion du 19e centenaire de la mort de Jésus. Mais c'est pas vraiment en l'an 33 qu'il est mort, c'est en l'an 30, on le sait maintenant, le 7 avril. Et il a été exposé aussi en 1973, c'était une petite ostension, la grande, c'était en 78, une ostension record. Je vous ai dit 3 millions de pèlerins, c'est le minimum, ça. Et sont venus là des chercheurs d'Europe et des États-Unis qui ont procédé à des prélèvements d'échantillons, pas des analyses. Et toutes ces recherches extrêmement savantes nous montrent bien que c'est un objet unique qui ne peut pas avoir été peint. Qu'est-ce que c'est que cette image qui est dessus? C'est la brûlure, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est disons un roussi, des fibrilles. Les fibrilles, c'est quoi? Vous savez, quand on touche à du tissu, on sent parfois qu'il y a des petits poils qui viennent des fils du tissu. Bien, ce sont ces tout petits poils, presque microscopiques, qui ont changé de couleur, qui sont comme roussis, en négatif, et qui forment tout le corps de cet homme, de face et de dos. Mais on y voit aussi des taches de sang. Et c'est du vrai sang. Le docteur Heller, aux États-Unis, un fameux savant pour l'analyse du sang, le plus grand aux États-Unis, je l'avais vu à 2020, une émission américaine sur le réseau ABC, il y a plusieurs années, déclarer qu'après ses recherches sur le linceul, il avait découvert que c'était vraiment du sang humain. Et il disait à la télévision qu'après le résultat qui s'était présenté à lui dans son laboratoire, il avait eu cette autorisation d'analyser des brindilles du linceul où il y avait un peu de sang. Il avait dit « Oh my God, it's blood ». Et c'est le cri qui lui est venu « Oh my God ». Et il ajoutait qu'il ne pouvait plus maintenant, devant la grande représentation du linceul qu'il avait dans son laboratoire, il ne pouvait plus que s'agenouiller et adorer celui qui y était représenté. Ça veut dire ça à la télévision quand on est un très grand savant, et je crois même qu'il est protestant. Je crois qu'il faut avoir beaucoup d'audace et beaucoup de conviction. La conviction lui est venue par la science. Et c'est pas la datation au carbone 14 de 1988 dans ces trois instituts différents qui pourrait renverser toutes les autres recherches qui ont été faites. Et nous aurons d'ailleurs une nouvelle ostension, une nouvelle exposition du linceul en 1998 et probablement aussi en l'an 2000. Pour ce qui est de l'histoire du linceul, on sait fort bien, comme je vous ai dit, qu'en l'an 30, vers le 7 avril, le corps de Jésus a été enveloppé dans un linceul, un linceul de lin. Et c'est pourquoi que en 314, le pape Sylvestre Ier a demandé que les nappes d'autel ne soient plus en soie, mais vraiment en lin, afin d'évoquer la matière du linceul. Mais qu'est-ce qui est arrivé au linceul après la résurrection de Jésus? On dit qu'en l'an 70, les disciples de Jésus se sont enfuis de Jérusalem qui était assiégée par les légions de Titus. Ils ont apporté avec eux ce linge précieux. Et d'ailleurs, dans les évangiles apocryphes, je vous en ai déjà parlé, ce sont des évangiles qui ne sont pas dans la Bible, parce qu'ils sont apocryphes, c'est-à-dire qu'ils ont été écrits par des auteurs qui n'ont pas été reconnus par l'Église, et qui datent du deuxième siècle, comme l'évangile de Saint-Pierre, c'est un faux Saint-Pierre évidemment, l'évangile aux Hébreux, ce sont des écrits de la fin du premier siècle, cela. Bien précise, le Seigneur a donné son linceul au serviteur du grand prêtre avant d'apparaître à Jacques. C'est tout de même étonnant qu'on trouve des choses comme ça. Ça laisse entendre que le linceul n'était pas détruit. En 340, Saint Cyrille de Jérusalem, un très grand saint, père de l'Église, mentionne dans un texte le linceul témoin de la résurrection. C'est tout de même important, ça, le linceul témoin de la résurrection. En 1147, le roi de France, Louis VII, on le sait, on a les documents, ça, il vénère le linceul au Blachern à Constantinople. Les Blachern, je vous expliquerai au besoin tout à l'heure si j'ai le temps, c'est un endroit où on exposait le linceul. En 1204, vous connaissez cette date, à Constantinople, les croisés prennent Constantinople le 13 avril 1204. Je vous en parlerai ce jour-là. Eh bien, avant même la prise de Constantinople, Robert de Clary, un Français, écrit dans un manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque royale de Copenhague au Danemark. C'est le numéro 487 dans cette bibliothèque. Il écrit, il y eut un monastère qu'on appelait Madame Sainte-Marie des Blachernes, où le sidoine, c'est-à-dire le linceul, où notre sire, notre seigneur, fut enveloppé, y était qui, chaque vendredi, se dressait tout droit, si bien qu'on pouvait bien voir la figure de notre seigneur. C'est qu'on dépliait le linceul et on le montrait dans toute sa grandeur, de face en particulier, à la foule, particulièrement le vendredi. Donc il a été très manipulé à Constantinople, et la foule s'écriait « Vera icône », la véritable icône, la véritable image de Jésus de Nazareth, de notre Seigneur. Et c'est de là, de ce cri « Vera icône » que vient le nom de Véronique et la légende qui tourne autour de Véronique qui aurait reçu Au passage de Jésus, durant le chemin de croix, alors qu'il allait se faire tuer, il aurait laissé l'empreinte de sa face sur un linge qu'une dénommée Véronique lui avait tendu pour qu'il puisse essuyer sa figure. C'est une légende qui tourne autour du nom de Véronique, mais ce beau nom de Véronique veut dire « véritable image de notre Seigneur ». Donc, 1204-1205, au moment de la prise de Constantinople, le linceul est transporté à Athènes. On en a des preuves. Tout est là. Je vous fais grâce des détails. Et 1206-1208, un Français, Othon de la Roche, envoie le tissu au château de son père, Ponce de la Roche. Et en raison de son acquisition frauduleuse, l'existence du Saint-Suaire est tenue secrète, car il était réclamé Théodore Ange, le neveu d'Isaac II, Ange, empereur de Constantinople, qui avait été détrôné en 204, il l'avait réclamé. Mais il est heureux qu'il n'ait pas été remis. Et finalement, il est heureux qu'il ait été volé. Pourquoi? Parce que Constantinople sera envahie très bientôt par les musulmans turcs. Et on sait que les musulmans ont saccagé de façon épouvantable les reliques chrétiennes. Et se sont même emparés de la magnifique basilique de Sainte-Sophie pour en faire une mosquée. Nos frères orthodoxes à Constantinople ont eu énormément à souffrir de cette présence des Turcs depuis ce temps-là. Et encore aujourd'hui, quand on va à Constantinople et qu'on voit à quoi sont réduits les orthodoxes chrétiens, nos frères, dans ce centre qui est le centre de l'orthodoxie, c'est pénible. Le fanar, comme on l'appelle, c'est-à-dire le Vatican des orthodoxes, est tout petit. Ils sont si peu nombreux, si pauvres. C'est tragique. Et ainsi, le linceul serait sans doute perdu s'il n'avait pas été soustrait, je dirais dit pour ne pas dire volé, et apporté en Occident où il a pu être conservé. On l'a retrouvé à Lirée en Champagne, à Chambéry où il a brûlé, et finalement, comme je vous ai dit tout à l'heure, à Turin. Et alors, la première mention historique du linceul date de 944. C'est longtemps avant la datation au carbone 14, 944, le 15 août très exactement, le jour de l'Assomption. Grégoire, qui était un diacre, si je me souviens bien, qui s'appelait, croyez-le, croyez-le pas, Grégoire le référendaire. Bien, c'était le représentant spécial de l'empereur de Byzance, de Constantinople, Romain Ier Lécapène. Je vous donne les noms parce qu'on a tous les documents. Et il fait une homélie. Le manuscrit est conservé à la Bibliothèque Vaticane, hein. À l'occasion de la venue à Constantinople de deux linges sacrés. Le premier serait une espèce de serviette avec des franges, qui était appelée mandilion ou voile de Véronique. Il portait l'effigie du visage de Jésus, mais ce n'est pas une effigie intéressante. La légende dit que ce voile aurait été remis au roi Akbar d'Édesse en Turquie, en Asie mineure à l'époque, par l'entremise de Thaddée, disciple de Jésus, pour le guérir d'une maladie. Mais c'est une légende, on n'est pas sûr de la véracité de ce détail. Le deuxième linge, lui, aurait porté l'image du corps de Jésus. L'image, comme on disait à l'époque, qui non par main, donc non faite de main d'homme, qui non par main a été imprimée, par les seules sueurs de l'agonie qui ont coulé comme des caillots de sang. Ce sont elles qui ont coloré l'empreinte véritable du Christ. C'est ce qu'on écrivait à l'époque. Il y a longtemps de ça, hein? 944. Et selon plusieurs historiens, les documents du Moyen-Âge montrent que les chroniqueurs de l'époque sont très précis. Et je crois qu'on peut ajouter foi à ces textes. Il y a d'autres données historiques précises aussi, concerne la piste de Geoffroy Ier de Charny. Ce dernier avait échoué à reprendre Calais au roi Édouard III d'Angleterre puis avait été fait prisonnier lors de sa captivité, il a promis à la Sainte Vierge de lui construire une église s'il venait à être libéré. Dans sa geôle, dans sa prison, un ange lui serait apparu sous les traits du serviteur du gardien de la tour et l'aurait aidé à s'échapper. Et par la suite, le roi Philippe VI lui accorde une rente. Or, ce Geoffroy a épousé qui? L'arrière-arrière-petite-fille d'Othon de la Roche dont je vous ai parlé. Il est entré en possession du linceul et il a construit cette église. Et nous verrons tout à l'heure vraiment ce qu'est ce linceul et pourquoi nous devons être émerveillés par cet objet unique, je vous le répète, unique dans l'histoire de l'humanité. En ce 20 février, c'est la fête de la Sainte Face. Dans de nombreux milliers, on célèbre ça. Et on enjoint les gens à illuminer la Sainte Face qu'ils ont chez eux par un lampion ou un cierge. Car la face de notre Seigneur qui nous est révélée sur le linceul de Turin vient du miracle selon les savants les plus avertis aujourd'hui. De plus en plus, la progression va sans cesse. Le professeur Raes, un spécialiste du textile à l'université de Gand en Belgique, a déclaré que le tissu du linceul est fait de lin, on le sait, de couleur blanc-ivoire d'une seule pièce, si on savait ça, contenant des fibres, et c'est très intéressant, des fibres caractéristiques d'une espèce de cotonnier, où on cueille le coton, là, du Moyen-Orient. Et la trame du tissu, là, montre que le sergé, c'est un sergé en chevron, c'est-à-dire, on dit en anglais quand j'étais jeune, herringbone, on avait des vêtements comme ça, les hommes en particulier. C'était comme en arête de poisson, hein? Et que la confection du point a nécessité un métier à quatre pédales. Et ça, c'était un mode de tissage fréquent en Syrie et aussi au Liban. À l'époque de Jésus, on le sait. C'est une des petites analyses. Si je vous faisais une analyse complète, ça prendrait des heures. Et je vous apporterai au moins 25 détails comme ça. Est-ce qu'on peut parler de peinture quand on parle du linceul? Moi, j'avais interviewé à Turin en 78 au mois d'octobre le professeur McCrone de Chicago, un homme têtu qui, sous prétexte d'avoir trouvé des petites traces de pigments vermillons sur le linceul, prétendait que c'était une peinture. Or, on sait fort bien que ça pourrait provenir du fait que les peintres au Moyen-Âge, une fois leur copie du linceul terminée, car on peignait des copies, c'est normal, on n'avait pas de photographie, et ils touchaient l'original par dévotion, comme ça se fait toujours, c'est un instinct normal, ça. On touche aux objets sacrés. Alors, donc, un petit peu de peinture de leur œuvre pouvait se détacher et rester sur le linceul. Et de toute façon, des particules ne font pas un tableau, hein? Il y a un expert en art, ou une experte si vous préférez, Isabelle Piksek. Ben, le linceul montre une image absolument continue, possède aucune des caractéristiques de décrépitude qui sont propres aux techniques des œuvres d'art faites au Moyen-Âge. Parce que les œuvres d'art à cette époque étaient faites uniquement avec des émulsions colloïdales, et ça se détériore. Il y a aussi une absence de contour dans l'image. Ça n'a aucun précédent dans l'histoire de l'art. Je veux dire qu'il n'y a pas de dessin qui entoure les couleurs. Là. S'il y avait eu un artiste, il aurait fait des dessins autour, des lignes. Il n'en a pas fait. C'est un dégradé. L'absence de contour, donc, qui n'a aucun précédent, c'est une autre preuve. Et selon François Garnier de l'Institut de recherche d'histoire des textes, au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique à Orléans, en France, cette œuvre paraît invraisemblable au réseau Arts and Entertainment, un film d'une heure où l'on prétendait tout le long que ça avait été fait par des artistes, particulièrement par Léonard de Vinci. C'est invraisemblable. Il aurait fallu traduire les volumes du corps par des ombres et des lumières, par des lignes et des plis. C'est une chose absente sur l'image de Turin. De plus, la perspective, vous savez, quand on voit une œuvre d'art, il y a des perspectives. Ça va être connu simplement au 15e siècle, la perspective. On connaissait pas ça à ce temps-là, vers l'an 1300. Enfin, la conception inversée de l'espace, là, faire un négatif en somme, ça n'aurait pas pu être fait par des peintres qui se seraient dit, on va faire ça en négatif. Et puis, un jour, ils vont découvrir la photo, là, nos descendants, et puis ils vont prendre une photo, puis ils seront bien surpris. Absolument insensé. Insensé, ça tient pas debout. Hein. De plus, cet objet unique est tridimensionnel, dans le sens que cette image négative est tridimensionnelle quand on la met dans des appareils spéciaux, à la NASA, et on voit surgir en trois dimensions la figure de Jésus-Christ et tout son corps. Hein. En tous les cas, il y a aussi le problème des perforations des poignets. Hein. Vous savez que sur le linceul, les clous ne sont pas dans les mains, mais dans les poignets. Pourquoi? Parce que si on crucifie quelqu'un dans les mains, le corps tombe par terre, ça se déchire. Dans les poignets, il y a un espace dit de Destot, d'après un médecin français, qui s'appelait monsieur le docteur Destot. Et quand on entre un clou là, il y a un des nerfs qui est abîmé et qui rétracte le pouce au creux de la main. Or, sur le linceul, on voit très bien les mains, le dessus des mains de Jésus, et on voit qu'il n'y a pas de pouce. On voit aussi que comment il est mort, hein? Il y a des expériences qui ont été faites qui montrent qu'il y a là les marques d'une crucifixion qui a provoqué la mort par asphyxie après tétanisation du corps, la tête en avant, les pectoraux en contraction forcée, la cage thoracique très remontée puis distendue. Faut remarquer aussi que les jambes n'ont pas été brisées. Le corps n'a pas été lavé après la mort, ce qui est exceptionnel, ça. Il n'a pas été lavé. Pourquoi? Parce qu'avant que Joseph d'Arimathie ait eu l'autorisation des autorités romaines à Jérusalem d'enlever le corps de la croix et de le déposer dans son tombeau qu'il avait acheté, dans le linceul qu'il avait acheté, eh bien, le soleil tombait. Jésus est mort vers 3 heures de l'après-midi. La fin du jour s'annonçait déjà. Le temps d'aller voir les autorités, de revenir, de descendre le corps, de le déposer dans le tombeau, il était trop tard, c'était le sabbat. C'était le samedi qui commençait. Ils n'avaient plus le droit de travailler, ces Juifs. Ils n'avaient plus le droit de faire quoi que ce soit, ni même de laver le corps. Et c'est ainsi que les traces de sang sont toutes imprimées. Et dans les images que l'on prend maintenant avec les nouvelles techniques, on voit très bien les traces de sang sur le corps et sur les bras. Sur les bras, les traces de corps nous indiquent que Jésus se redressait sur la croix constamment pour essayer de respirer. Car les traces de sang sur les bras sont dans deux directions. C'est inimitable par aucun peintre, ça. Il a été blessé au côté droit, d'une plaie dont on connaît la dimension précise, qui est tout à fait conforme aux lances des centurions utilisées à l'époque. Les centurions utilisaient des lances de ce format aux lances. On en connaît. Il y a aussi sur le linceul des pollens fossilisés. J'avais interviewé pour mon film un très grand spécialiste de ces pollens fossilisés, c'est-à-dire durcis, qui sont devenus comme des petites pierres microscopiques et qui sont intactes, on peut, sous un microscope puissant, reconnaître ces pollens pour vraiment ce qu'ils sont. Or, on a trouvé des pollens qui datent de l'époque du Christ. Pourquoi? Parce que ce sont des pollens de plantes qui poussaient dans la région de la Palestine, ou d'Israël aujourd'hui, et ces pollens sont de plantes qui sont disparues à peu près 2 siècles après la mort de Jésus. Il y a aussi sur la face de Jésus des traces d'écriture qui ont été découvertes par André Marion, docteur en physique nucléaire, chercheur au CNRS, au Centre national de la recherche scientifique, donc délégué à l'Institut d'optique théorique et appliquée d'Orsay à Paris. Il a réalisé une analyse très précise des photographies du linceul, avec, je le signale pour les savants par qui écouteraient, avec un micro-densitomètre qui permet une résolution de l'ordre du micromètre, et à l'aide de logiciels d'optimisation d'image transformés de Fourier, filtrage, interpolation linéaire, ben il a réduit, c'est-à-dire les risques d'artefacts dus au chevron, là, au tissu, et montré que les traces d'inscription grecque et latine ne suivent pas la structure du tissu. Et là, je vous fais grâce de tout le restant, on peut voir les lettres et on peut lire « visage à peine ébauché » en grec. C'est un des premiers textes qui est, quand on regarde la Sainte Face telle qu'elle nous est remise pour qu'on voit vraiment la figure de Jésus, c'est écrit en haut à gauche. Sous cette inscription, on peut lire « réseau » en grec. Ça signifie « j'atteste ». Ensuite, à droite de la joue, on voit « amor ». Et ensuite, on voit les lettres « SB » qui signifieraient « signum baldini », c'est-à-dire le sceau de Baudouin, l'un des rois qui ont eu en main le linceul. Cette controverse, en tous les cas, autour du carbone 14, a suscité tellement de recherches qu'on en arrive à de plus en plus de preuves de l'authenticité du linceul. Et c'est grâce au progrès des techniques qu'il a été peut-être possible de faire la datation carbone 14, mais grâce aux techniques aussi, on a pu répondre à ce résultat. Et je vous ai mentionné tout à l'heure les livres, je les mentionne à nouveau, en particulier celui qui est le plus savant, mais à peu près illisible pour quelqu'un comme moi qui suis loin d'être un savant, La science à l'épreuve du linceul, de Arnaud Aaron Upinski. Et je vous recommande beaucoup plus de lire un tout petit livre, Le linceul de Turin face au carbone 14, de Jean-Marie Clerc, C-L-E-R-C-Q, publié aux éditions de l'Œil, chez François-Xavier de Guibert. C'est donc une énigme qui est presque indéchiffrable, le linceul. On ne peut pas savoir comment il a été fabriqué. Et la conception qu'on se fait de plus en plus, c'est que cette image est une brûlure qui est survenue au moment de la résurrection de notre Seigneur. Au moment de cette résurrection, il a été comme brûlé en 1 milliardième de seconde par l'irradiation mystérieuse de cette matière qui se transformait en une matière éternelle, qui fait qu'elle puisse passer à travers les murs pour apparaître aux apôtres comme les apôtres en portent témoignage. Alors évidemment qu'on touche au problème de la foi. On sort de la science, on arrive dans un autre domaine qu'on ne peut pas prouver, mais qu'on peut imaginer, nous qui avons la foi. Et si cet objet ne donne pas la foi, comme les miracles ne donnent pas la foi, on sait bien Jésus a fait tant de miracles, tous les Juifs ne se sont pas convertis. Combien de gens voient des miracles et ne se convertissent pas? Songeons à Rourke, le fameux cinéaste français, qui a tourné un film sur Lourdes. Sur la pellicule, lors du développement de tout ça, il voit un miracle. Le miracle est là. Il a été attesté et prouvé par les grands savants de Lourdes. On voit son film, on entend sa voix au cinéaste et à la fin, il dit « Il y a là un phénomène extraordinaire, mais je n'ai pas la foi. » Croire, ce n'est pas simplement voir. C'est plus que ça. C'est une grâce de Dieu qui nourrit au fond de nous notre âme pour nous permettre d'entendre les paroles qui sont sorties de la bouche de celui que l'on voit sur la sainte face, sur le linceul. Les paroles qui bouleversent l'humanité depuis 2000 ans, pour ceux qui ouvrent vraiment leurs oreilles. C'est là qu'on voit que la foi est un étrange mystère. Et dans une petite brochure que l'on a publié en extrayant d'un ouvrage de Gilbert Cesbron, des choses qu'il a écrites sur le linceul, dans son livre « Mourir étonné », on arrive à lire des choses absolument mystérieuses comme, à la fin, l'étranger, l'homme mystérieux, celui dont on ne parlait qu'à mi-voix et les yeux trop brillants, celui qu'on n'osait plus attendre. Visiteur des mourants, visiteur de toutes les prisons de la solitude et du désespoir, visiteur du dernier instant, au moment de la mort, quand il n'y a plus un mot à dire, plus qu'à demeurer là, le souffle court, compagnon taciturne de tous ceux qui se trouvent à leur tour au jardin des Oliviers, ou livrés aux brutes en uniforme, de tous ceux qui marchent vers leur calvaire et dont le visage, tout d'un coup, devient à la ressemblance de celui-ci. C'est nous, à chacun de nous, d'heure en heure, de siècle en siècle, de le susciter, de le ressusciter. C'est à nous, à chacun de nous, de crier comme Jean, comme le vieillard Saint-Jean, aux dernières lignes de son évangile, « Reviens, Seigneur Jésus, reviens !» Et il revient en nous. C'est à nous de le faire vivre. C'est à nous d'aimer de son amour. C'est à nous de mettre en pratique ce qu'il nous enseigne. Inutile de croire au linceul de Turin. Inutile d'être en plein d'admiration devant cet objet. Inutile de lire comme j'ai fait 50 ou 55 volumes. Inutile de faire un film qui a fait le tour du monde, qui a été présenté dans je ne sais combien de douzaines de pays. Inutile de faire tout ça si ça n'arrive pas à nous faire aimer celui qui est là, à nous faire désirer de le connaître dans son humanité et sa divinité. Le propre du linceul, c'est de nous faire comprendre que Jésus de Nazareth, celui qu'on appelle le Verbe éternel, le Fils du Père, le Seigneur, etc., etc., tous ces beaux noms qu'il mérite des milliards de fois, eh bien, il y a quelqu'un derrière tous ces titres-là. Quelqu'un de concret, qui avait des yeux, une tête admirable, des épaules sur lesquelles il a porté, sur l'une d'entre elles, le patibulum, c'est-à-dire le sommet de la croix, la partie horizontale, qui a marqué son épaule, on le voit sur le linceul, qui avait un cœur qui battait, qui avait des mains qu'on voit, qui ont caressé la tête de Marie, sa mère, pour l'approcher de ses lèvres, pour l'embrasser. Des mains qui ont caressé les têtes des enfants, en les approchant de lui, « Laissez venir à moi, les petits-enfants. » Des mains qui ont entouré les épaules de ses disciples, de ses apôtres, pour serrer contre lui Saint Pierre, Saint Jean et les autres dans les moments de défaillance et de difficulté qu'ils avaient en marchant avec lui sur les routes de Palestine ou du Liban. Ses mains qui ont béni, qui ont offert des choses, qui ont accepté des choses. Ses mains qui ont tenu ce pain le jeudi saint, lors de la dernière scène, pour dire « Ceci est mon corps » et pour distribuer de ses mains que l'on voit son corps vivant. Mystère étrange et surréaliste de l'Eucharistie. Phénomène qui dépasse tout entendement. Phénomène que n'aurait jamais pu imaginer même un Salvador Dali, même un André Breton, père du surréalisme dans les années 20. Est-ce que ça ne prouve pas d'ailleurs sa divinité? D'imaginer de se donner en nourriture ainsi sous la forme du pain, sous la forme du vin, son sang, son âme, qui se donne à nous, et que l'on peut voir sur le linceul les traces de ce sang versé par amour. Il est allé jusqu'au bout de son message, et on l'a exécuté. Quand on va jusqu'au bout d'un message aussi grandiose que celui du don de soi et de l'amour, on attire souvent sur soi des ricanements. Parce qu'on n'est pas des saints, nous. On dit des choses, on ne les fait pas toujours. On parle et on est indigne. Et les gens rient, ils ont bien raison. On souffre. On a du chagrin. Mais c'est normal. Imaginez le chagrin qu'il a eu quand crucifié, voyant devant lui les gens qui ricanaient. Les gens qui lui disaient « Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Ah ah ah. Et son cœur était rempli d'amour pour tous ces êtres qu'il avait lui-même créés. Car c'est par lui que Dieu a créé le monde. C'est par lui que Dieu a tout créé, c'est dans le credo. Par lui, tout a été fait. Et c'est pourquoi il dit à son père, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Père, pardonne-leur, pardonne-leur, pardonne-nous. Pardonne-nous, mon Dieu. Pardonne-nous de si peu aimer cet objet qui nous est laissé mystérieusement. Pardonne-nous de ne pas comprendre combien cet objet peut nous nourrir. Comment se fait-il, qu'on aime si peu le linceul de Turin? Comment se fait-il qu'on le reçoive en haussant les épaules? Comment se fait-il qu'en prenant un livre, on n'ait pas le goût de le lire? Quand il concerne Jésus-Christ, sa passion, son amour, comment se fait-il? C'est ce que saint Anselme, théologien, père de l'Église, promoteur et défenseur d'une preuve restée fameuse de l'existence de Dieu. On oublie qu'il était aussi un moine exemplaire, un archevêque tenace en Angleterre, à Canterbury. Il a écrit ce qui suit. « Je cherche ton visage, Seigneur. » Ne me cache pas ton visage. Désormais, toi, mon Seigneur et mon Dieu, enseigne-moi au plus profond de mon cœur où et comment je dois te chercher, où et comment je te trouverai. Si tu n'es pas en moi, où dois-je te chercher? Mais si tu es partout présent, d'où vient que je ne te vois pas? Tu habites, je le sais, dans une lumière inaccessible. Mais où resplendit-elle cette lumière inaccessible? Et comment parvenir jusqu'à elle? qui me guidera, qui m'introduira, pour que je puisse te voir? À quel signe pourrais-je te reconnaître? Je ne t'ai jamais vu, Seigneur mon Dieu, et je ne connais pas ton visage. Je vous rappelle que ce texte date du XIe siècle. Je continue. J'ai cherché le bonheur, et je suis dans le trouble. J'étais tendu vers toi, et je t'ai offensé. J'ai cherché le repos dans ma solitude, et je n'ai trouvé que la douleur et les soucis. Je voulais rire dans l'allégresse, et je ne peux que gémir ou rugir. Oh, jusqu'à quand, Seigneur, jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'oubli? Jusqu'à quand détourneras-tu de nous ton visage? Quand nous exauceras-tu? Quand illumineras-tu notre regard? Oh, regarde-nous, Seigneur, et exauce-nous. Donne-nous la lumière, montre-toi. Aie pitié de nos efforts pour te trouver, car nous ne pouvons rien sans toi. Tu nous invites, aide-nous. Libère-moi, décharge-moi, apprends-moi à te chercher, car je ne peux pas te chercher si tu ne me l'apprends pas, ni te trouver si tu ne te montres pas à moi. Fais qu'en t'aimant, je te trouve, et que je t'aime en te trouvant. Eh bien, je crois qu'on peut le trouver sur le linceul, qui nous ramène aux itinérants et aux plus pauvres. Le Christ était un itinérant. Le Christ était un pauvre. Le Christ était un prisonnier. Le Christ est un exécuté. Le Christ est un condamné à mort. Mais le Christ est ressuscité. Et nous avons son portrait, sa figure, qui nous rappelle que nous devons, à travers cette figure, voir chez chacun des êtres qui nous entourent la figure de Jésus. Notre prochain, c'est le Christ. Dans la messe d'aujourd'hui, à la communion, on dit « Quand le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » C'était la messe d'aujourd'hui.